À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est évidemment l'anniversaire de l'armistice où tant de gens ont été tués. Et justement, l'Église porte l'émission aujourd'hui porte sur une question que l'on se pose souvent. Est-ce que l'Église respecte notre corps humain? On peut le voir d'ailleurs, c'est la fête de Saint-Martin aujourd'hui. L'on voit Saint-Martin, n'est-ce pas, qui coupe son manteau en deux et qui en donne la moitié pour recouvrir le corps, justement, d'un pauvre qui a froid. J'ai déjà vu deux photos dans un album qui avaient une tendance évidente à nous montrer que l'Église ne respecte pas beaucoup le corps humain. C'est assez sympathique par ailleurs, et on nous montrait tout d'abord des jeunes athlètes qui étaient magnifiques, les muscles nombreux et bien faits, une tête droite, un beau regard, une mine épanouie, ils étaient pleins de vie, de santé. Puis, il y avait une autre photo dans cet album qui nous montrait un groupe de premiers communiants. J'avais l'impression que ça avait été pris en France. Qui sortaient d'une église grise, et puis ils avaient la tête basse et les traits plutôt moches, le dos plus ou moins voûté. Il y avait beaucoup qui marchaient de façon inquiétante, et puis ils étaient sans grâce et jeunes, ils étaient même sans jeunesse. Ils avaient l'air d'une bande d'insignifiants, quoi. Le photographe avait bien pigé, hein, pour montrer que d'une part, l'Église ne faisait pas grand-chose de la génération qui montait, puis de l'autre, eh bien, on voit qu'avec un régime nouveau, débarrassé de l'Église, eh bien, on parvenait à créer des jeunes pleins d'énergie. Mais est-ce que c'est vrai ce que l'Église se désintéresse du corps humain? On dit parfois que l'Église parle tellement, et puis les chrétiens parlent tellement d'éternité, et puis de ce qui va nous arriver plus tard, que ça force les chrétiens à négliger le présent, à négliger leur santé, à négliger ce qui compte dans la vie, qui est beau, à ne pas s'intéresser même aux arts et aux choses belles, ce qui est fou, n'est-ce pas? Et puis, particulièrement à ne pas s'intéresser à leur corps. Et c'est vrai qu'il y a eu des exagérations, je vous ai déjà raconté des vies de saints aussi plutôt terribles, hein? Les saints meurent à 36 ans, 40 ans, non pas parce qu'ils ont attrapé, comme Thérèse d'Enfant Jésus, la tuberculose et qu'elle est à cause du froid et tout, mais on ne respectait pas tellement une santé bonne. Et c'est vrai, il y a eu des excès dans certaines communautés, dans certains monastères, et chez certains saints qui ont exagéré à travers le temps. Mais ça n'était pas une règle, c'était pas une demande, loin de là, c'était même contraire, au fond, à l'enseignement de l'Église. Parce que l'Église respecte notre corps, et ça peut-être en surprendre quelques-uns. Je vais m'établir, pour vous parler de ça, ça va aussi peut-être en surprendre quelques-uns, sur la lecture simplement du « Je crois en Dieu », le credo, ce qu'on récite à la messe. Et le credo nous révèle bien l'attitude fondamentale que l'Église, ou que les Églises, puisque nous avons tous au fond le même credo, que l'Église prend à l'égard du corps humain. Et vous verrez, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus intéressant qu'on peut penser. Ça va vous éclairer, surtout ceux parmi vous qui récitez encore le « Je crois en Dieu » qui allez à l'Église, vous y penserez davantage. Parce qu'on récite ça souvent très machinalement. C'est des affirmations de foi, on récite ça, un peu trop vite même. Faudrait peut-être le réciter plus lentement, hein? Surtout le beau grand credo, là. Je crois en Dieu, créateur des choses visibles. L'Église considère le corps, qui est une chose visible, comme une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait nos corps. Et comme les hérétiques des premiers siècles, s'attaquait à certaines réflexions sur la grandeur et la beauté du corps, mais elle va maintenir que Dieu a créé toutes les choses qu'on voit, y compris surtout nos corps, parce qu'il y avait des hérétiques qui pensaient que c'était une autre force, une force du mal. qui avait créé la matière. C'était des doctrines absolument invraisemblables. Et d'ailleurs, le récit de la Genèse, dont il était beaucoup question hier, j'espère que vous avez écouté ça sur le déluge, il y a des gens qui ont beaucoup aimé ça hier, beaucoup, beaucoup. J'ai reçu vraiment des téléphones si enthousiastes comme j'en ai pas reçu depuis 2 ans. Ce récit de la Genèse nous montre, au tout début de la Bible, Dieu qui crée le corps de l'homme. C'est assez beau ce récit, qui est double d'ailleurs, et à mon avis, c'est écrit de façon bouleversante. Et quand on y pense, bien à un corps humain, la couleur de la chair, qu'elle soit brune, même noire, d'ébène, ou presque trop blanche dans les pays nordiques, et ou légèrement jaunâtre en Asie. Il y a là des teintes qui s'harmonisent avec les formes du visage et les formes même du corps qui sont différentes d'une race à l'autre, et c'est très beau. Puis il y a l'éclat des yeux qui varie, il y a le contour des lèvres, les proportions heureuses d'un corps bien fait. Les corps, évidemment, très sveltes des plus jeunes, et des jeunes filles en particulier, c'est donc Dieu qui les a créés. Si ça se gâte un peu avec les années, c'est souvent de notre faute, hein? On a bien vu dimanche, si vous avez regardé à la télévision cette émission spéciale du Point, sur les gens trop gras aux États-Unis, qui sont innombrables, mais c'est une horreur, c'est qu'on ne fait pas attention. On mange n'importe quoi. On ne fait pas d'exercice. D'ailleurs, aucune partie du corps n'existe sans l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui a tout dessiné. Aucune, si intime soit-elle, hein, qu'il n'y a pas besoin d'insister, ne porte en soi la marque du mal. Pas du tout. Toutes et chacune des parties de notre corps font partie du plan de celui qui nous a créés. Si les choses visibles doivent nous mener jusqu'à Dieu, il me semble, quand on y pense, que notre corps, le corps de l'homme et le corps de la femme, qui sont des chefs-d'œuvre de la création, devraient nous mener de la même façon vers Dieu, parce que la contemplation de ce corps devrait pouvoir amorcer notre prière autant que la vue d'une rose ou d'un lys. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça, hein? La tentation de la chair. Malgré tout, l'Église ne craint pas de faire représenter le corps humain, avec tous ses attraits, toutes ses richesses, dans l'intérieur même de ses grands sanctuaires. Pensez à la chapelle Sixtine, ou le plafond de la chapelle Sixtine. C'est Paul Claudel qui dit dans le soulier de satin, « Qui donc, mieux que Rubens, a glorifié la chair et le sang? Cette chair et ce sang même qu'un Dieu a désiré revêtir et qui sont l'instrument de notre rédemption. » Mais le corps humain est plus qu'une créature matérielle. Le corps humain, c'est, comme je le vous dis souvent, le tabernacle de l'âme, ou si vous voulez, la maison de l'âme, ou j'aimerais même dire le château de l'âme. Parmi les êtres vivants, le corps humain est celui qui se rapproche le plus de l'esprit, puisqu'il est le seul à former avec l'esprit la première des créatures intelligentes. La plus intelligente, quoi. Il y a donc une union étroite entre le corps et l'âme. L'un et l'autre sont indispensables à la vie de ce qui compose l'homme et la femme. Sans le corps, on le sait, les institutions des génies sont impossibles. Ça leur prend des yeux, ça leur prend tout leur corps pour avoir ces intuitions géniales. D'ailleurs, quand on y pense bien, puisque cette émission est souvent consacrée aux saints, mais chez les saints, le corps est le serviteur de leur âme. Pensez à l'héroïsme des martyrs. D'autre part, pensez aux envolées mystiques des contemplatifs. Tout cela ne s'est réalisé qu'avec l'aide d'un corps. Par contre, à cause de nos faiblesses morales et de nos péchés, les liens entre notre âme et notre corps se trouve plus ou moins relâché, et ce qui fait que notre corps tend à s'abandonner souvent des tendances qui sont bonnes en soi, mais la satisfaction exagérée de ces tendances peut nuire à notre corps et à notre âme. Et on perd l'équilibre, quoi, comme les gourmands, les luxurieux, etc. Mais ce corps, l'Église nous ordonne de le croire, c'est dans le credo, reste bon malgré ses péchés. Ses facultés restent saines, malgré nos péchés. Le mal n'existe au fond que dans les volontés, nos volontés qui sont perverties, et non pas dans le corps et dans ses membres. Quand on conserve en nous les valeurs spirituelles et morales, le corps reste un bon collaborateur dans la réalisation de ce qu'on appelle notre perfection humaine, qui pourrait être notre sainteté. Et on le voit chez les grands convertis, qui se convertissent instantanément. Leur corps servait à toutes sortes de péchés, et instantanément leur corps servent à leur sainteté. C'est l'âme qui se transforme. Et le Verbe s'est fait chair, qu'on lit dans le credo, en naissant de la Vierge Marie. Dieu qui est un esprit pur, celui qui a le mal en horreur, celui qui vient pour exterminer le mal, pour nous libérer de nos bêtises, eh bien, il ne craint pas, lui, d'assumer, dans l'unité de sa personne, une nature humaine complète. Il prend un corps et une âme. Est-ce que Dieu pouvait marquer d'une manière plus concrète que le corps n'est pas mauvais? C'est ce que l'Église a compris. Et c'est ce qu'elle enseigne particulièrement à Noël. Nous allons fêter cette fête où Dieu prend un corps. Et ce corps du Christ, on sait que les artistes, les peintres, les sculpteurs ont essayé d'en reproduire les lignes. D'une façon très harmonieuse, souvent, ils ont eu bien raison. Ce corps de Jésus était, on peut l'imaginer, d'une pureté parfaite. Il était le fruit, quoi, du corps immaculé de la Vierge Marie qui devait être fort belle, la plus belle. Il était donc d'une harmonie parfaite, son corps, parce que le Saint-Esprit l'avait engendré dans Sainte Marie, et que toute œuvre qui vient directement de Dieu, me semble, ne peut être que parfaite. Mais si Dieu a tenu à entourer de tant de précautions le corps, la création du corps de son Fils, est-ce que il ne tenait pas du même coup à marquer son intérêt pour le corps en général? Pourquoi? Parce que Dieu aime nos corps. C'est lui qui les a imaginés, patentés, quoi. C'est lui qui les a faits. Et il est très fier de ce qu'il a fait. C'est à nous de lui rendre, en étant fiers nous-mêmes, la pureté de nos corps, le respect de nos corps, un amour profondément chrétien de nos corps. Il est dit encore dans le « Je crois en Dieu », il a été crucifié par amour pour nous, il a souffert par amour pour nous, il est mort par amour pour nous. On ajoute même, il est même ressuscité par amour pour nous. C'est une grande délicatesse de la part de Dieu notre Père, qui choisit le corps, cet instrument, pour nous témoigner en son Fils l'amour infini qu'il nous porte, et c'est ce qu'on voit sur un crucifix. Dans l'immense univers qui nous écrase de ses merveilles, puis de tous ses mystères, que d'émissions à la télévision qui nous montrent, encore hier soir je voyais des choses sur cet espace infini, sur les trous noirs, c'est incroyable. Et l'énergie que dégagent certains astres qui dépassent des milliards de fois l'énergie de notre soleil, et Dieu le Père, lui, a regardé avec complaisance et tendresse le corps de notre Seigneur, écartelé, cloué, sanglant. Car Jésus avait bien dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et aussi, nous, les catholiques, les chrétiens, nous avons voulu que notre signe de ralliement, à nous, chrétiens catholiques particulièrement, partisans du Christ, eh bien, ce soit précisément ce corps de l'homme-Dieu attaché à une croix, qui est l'expression de la totalité de l'amour de Dieu pour toute l'humanité, que ce soit notre signe de ralliement. Ce sont nos crucifix, nos croix que nous portons en procession. On le voit chez les Anglicans, et même chez les méthodistes, ils portent une grande croix dans leur grande procession, et nous aussi. Ça vient de nous, de toute façon. Ils étaient tous catholiques autrefois. Et on dit dans le credo, il est ressuscité dans son corps. Et resurrexit. Sicut dixit. Tout d'abord, pourquoi le Christ aurait rendu à la vie son corps de chair si ce corps avait été chose méprisable? Mais bien plus encore, il a voulu que cette résurrection devienne la preuve irréfutable de sa divinité. Bien oui, il a annoncé d'ailleurs à ses contradicteurs, pour prouver la véracité de son enseignement, que son corps allait échapper à la corruption du tombeau. Quand il l'a comparé au temple, étrangement, de Jérusalem, en disant que détruit ce temple, anéanti, bien son corps serait... Il faisait une comparaison avec son corps serait rebâti en 3 jours. C'est une parole étrange et mystérieuse et très sémitique dans l'Évangile. C'est donc que ce corps devient la preuve sensible de la mission divine du Christ. Ce corps du Christ reprend vie pour bien marquer que le Christ est Dieu et que son message est vrai et qu'il nous aime. Comment mieux exalter la valeur du corps humain, hein? Et le credo, le « Je crois en Dieu » ajoute, « Il est monté aux cieux ». Et pourquoi cette montée d'un corps humain auprès de Dieu notre Père, cette action du Christ ressuscité, est, ce qu'elle n'est pas trop théâtrale, et même un peu inutile, diront certains. Bien au contraire, il est ressuscité, il monte aux cieux. Si le Christ a fait participer son corps à sa gloire, c'est qu'il voulait nous montrer... d'une façon fantastique, sa volonté de garder avec notre humanité un contact étroit. Le contact des âmes ne lui suffisait pas, il tenait à rester soudé à notre nature humaine, même dans son élément matériel, le corps. Et c'est pour affirmer la dignité du corps humain que le Christ a voulu entraîner son corps dans sa gloire. Est-ce que c'est assez clair? Et l'Église vénère ce mystère. Puis, il y a l'Eucharistie, hein, Dieu a voulu que... le Christ qui s'est offert, eh bien, qui s'est donné, soit perpétué à travers les temps et les espaces. Et faites ceci à mémoire de moi, c'est ce que dit Jésus, le Christ, en terminant la cérémonie, le jeudi saint au soir, la veille de sa mort. Et depuis lors, sans discontinuer, depuis ce temps-là, ça fait près de 2000 ans, des milliers, des millions de prêtres se sont penchés chaque jour sur un peu de pain. Puis encore aujourd'hui, bien, il prononce les paroles de la consécration. Ceci est mon corps. Et le miracle surgit devant nous. Devant tous ceux qui participent à l'Eucharistie, Dieu surgit à nos yeux, dans le temps et l'espace, pour se manifester sous forme d'une nourriture. Quelle étrange chose! Et parmi les richesses du monde que nous pourrions offrir à Dieu, notre Père, des métaux précieux, on pourrait des parfums fantastiques, ou des œuvres d'art. Dieu n'accepte qu'un seul don matériel, c'est celui du corps de son Fils bien-aimé, et de son sang, son âme. Et c'est parce que depuis 20 siècles, l'humanité lui présente ce corps comme une hostie pure et sans tache, et ce sang précieux, que Dieu répand son amour sur toute la terre, en réponse à l'amour et au désir des assemblées chrétiennes. Et quand il veut donner aux hommes un gage de son amour, il ne trouve qu'un seul don, c'est le corps de son Fils, et évidemment, évidemment, uni à son sang, son âme, et à sa divinité, qu'il offre en nourriture dans la Sainte Eucharistie. Le corps, je dis bien le corps du Christ reçu en communion, devient le Saint-Sacrement, le sacrement par excellence. C'est le signe sensible dont Dieu se sert pour augmenter la vie en nous et nous rendre debout, des chrétiens debout, comme Marcel Legault l'autre jour, comme Rail Samaritain aussi, comme tous ces gens dont je vous parle et ces saints. C'est ce corps qui peut nous assurer le bonheur éternel, le corps de Jésus. Le prêtre le dit d'ailleurs en donnant l'hostie, le corps du Christ. L'Église adversaire du corps humain, voyons donc. Je continue d'ailleurs. Nous disons aussi dans le « Je crois en Dieu », « Je crois à la résurrection des morts ». C'est fabuleux, dans les arguments qui précèdent. Bon, il s'agissait du corps du Christ, ok. Mais ici, il s'agit bien du nôtre, de notre corps à nous. Et c'est dire que nous croyons à ce fait prodigieux que notre corps, réduit en poussière, retrouve vigueur et beauté. Oui. Oui, beauté. C'est un peu surprenant pour certains d'entre nous, hein, quand on est tout défait, vieilli. Oui, nous sommes beaux aux yeux de Dieu et nous serons beaux ressuscités. Et pour s'unir de nouveau à nos âmes, nos corps seront là. Et ils jouiront avec elle de l'éternité. Comme dire, on pourrait dire deux amis, le corps et l'âme, hein, que toutes les problèmes de la vie, puis la mort surtout, séparés pendant quelques instants tout le moins, et qui se retrouvent, puisqu'enfin ils sont inséparables. Beaucoup de théologiens croient que la résurrection s'opère peu de temps après la mort. Et quand saint Paul parle de la résurrection durant la plaidoirie qu'il a tenue à Athènes, ses auditeurs se sont mis à ricaner, vous vous souvenez, puis à s'en aller en souhaitant à Paul de trouver des gens plus naïfs qu'eux. Beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent Dieu pour ne jurer que par la science. La science va tout expliquer. Ben oui, explique rien, la science, elle constate des choses qui sont là déjà. Ou bien jure par la beauté, les arts, la littérature pour la littérature. Un livre est beau en autant que même s'il dit des âneries, il est bien écrit. Ou bien on se tourne vers le vice de tout ça. L'argent, le succès, déshonneur, n'importe quoi, et surtout le sexe. Eh bien, ces gens-là haussent les épaules en entendant proclamer ce dogme du « je crois en Dieu » que nous allons ressusciter, comme si Dieu, qui nous a créés sans nous, ne pouvait nous ressusciter sans se préoccuper de nos petites objections. Alors que notre naissance, d'ailleurs, reste un mystère, hein? C'est un mystère pour tous, notre naissance. Avez-vous déjà mis un enfant au monde? Il vient de vous? Qui l'a fait, vous? Pas du tout. Il est plutôt puéril de vouloir nier la possibilité pour Dieu de faire renaître à l'éternité notre corps de chair sous la forme qui lui plaira quand on sait que c'est lui qui les fait naître. Puisque notre corps est créé par Dieu pour nous aider à nous sanctifier, bien nous trouvons, nous, chrétiens, même très logique que Dieu créateur, veuille le faire participer à la gloire éternelle pour toujours. Nous croyons donc que notre corps va ressusciter, comme celui du Christ est ressuscité. Et l'Église respecte donc nos corps. Elle respecte nos corps, même après la mort. Que des gens haussent les épaules, ok, je comprends ça. Bon, ils peuvent pas croire ce que je vous dis. Mais qu'ils ne disent pas que l'Église méprise le corps humain. Non, je ne peux plus endurer ça. En fait, si on cherche à la surface de la Terre une idéologie humaine qui a jamais pu faire accepter par des milliards d'êtres une doctrine aussi respectueuse du corps, on cherchera en vain, moi je n'en connais pas. Alors, est-ce que l'Église respecte nos corps? Eh bien, si l'âme, qui est avant tout, je vous l'ai dit, le tabernacle de Dieu, le tabernacle où la Trinité vient loger, le corps... Et pas rien que le tabernacle, il en est le temple, hein? C'est saint Paul qui dit « Glorifiez et portez Dieu dans vos corps ». Le corps, par son union à l'âme, participe donc à l'honneur de posséder Dieu en quelque sorte. Posséder Dieu, c'est peut-être trop fort. Mais c'est vrai. Mais il y a bien plus, écoutez bien, en définitive, c'est quand des actes où le corps a sa part, que la grâce, en s'unissant à notre volonté libre, va porter ses fruits. Mais oui, c'est en morcelant nos journées dans des tâches très matérielles que nous allons augmenter en nous la vie de la grâce et que nous allons rester unis au Christ pour l'éternité, même les plus simples fonctions, la vie de la vaisselle, sont destinées à garder la vie à nos corps, comme préparer la cuisine et faire bien d'autres choses que je ne mentionne pas. Ça devient des sources de vie éternelle, oui. Faut pas avoir honte d'être ce que nous sommes. Soit que vous mangiez, dit saint Paul, soit que vous buviez, faites-le à la gloire de Dieu. Oui, on le fait pour Dieu, à la gloire de Dieu. Et le corps qui est œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Instrument de libération, signe sensible de l'amitié de Dieu, temple de la grâce sanctifiante et de sa présence trinitaire. Le corps est-il, oui ou non, respecté par l'Église catholique? Y a-t-il une doctrine qui l'exalte davantage? À mon avis, non, je n'en connais pas. J'ai lu beaucoup de choses sur les différentes religions et je dirais 100 fois non. En face de ces affirmations, placez celles, mettons, de certains naturalistes modernes. On a pu lire dans une revue cette annonce. Parmi bien des textes insipides. Hein. Voici le texte. C'est écrit, « Voici le bel été, c'est la saison de votre corps. Ne plus penser n'être qu'un bel animal qui joue, qui s'égaie, qui s'en donne à cœur joie. Retrouver son origine, c'est-à-dire le bel animal sain et vigoureux. Ne plus se fatiguer à repousser ses mauvais instincts ou à chercher son devoir. Vivre animalement. Oui, vivez animalement, vivez bellement, peut-être même un peu bêtement, c'est-à-dire comme la plus belle créature de toute la création. » Il parle quand même de création, c'est assez curieux. Hein? Que de niaiseries dans ces pseudo-religions nouvelles. Hein? Vraiment, nous, catholiques, et nos frères chrétiens des grandes églises, nous n'avons aucun intérêt à fréquenter, est-ce que je devrais les nommer, les clubs med, là? Enfin, bon, peut-être pas, mais en tout cas d'autres organisations qui sont plutôt sans âme, hein? La liturgie, qui est l'ensemble des manifestations publiques aussi, des cérémonies de l'Église, et la liturgie traduit tout ce respect du corps dans des rites ou des gestes qui sont sensibles. Pourquoi? Pour faire pénétrer davantage dans nos esprits puis dans nos cœurs le respect du corps. C'est rien d'étonnant, hein, si nous trouvons largement traduit, il me semble, le respect de l'Église à l'égard du corps humain dans tous ses sacrements et ses rites. Prenons la messe, qui est le centre primordial de la liturgie catholique, l'Eucharistie. Nous y retrouvons un grand nombre de preuves sur le respect dont la liturgie entoure le corps, même aujourd'hui avec la simplification. Tout d'abord, l'Église ne se contente pas dans notre participation à l'Eucharistie d'une prière du cœur simplement. Elle veut que tout notre être loue Dieu avec notre corps. C'est pourquoi elle nous demande, comme elle demande aux prêtres d'ailleurs, une attitude spéciale du corps, debout, à genoux ou assis, selon les occasions, et ça a un sens. On retrouve le même respect du corps dans la liturgie des sacrements. Notons que les sacrements sont des signes sensibles, hein? Donc, qui s'adressent au corps. Ils atteignent notre âme qu'en touchant notre corps. L'eau qui nous fait chrétiens au baptême touche notre corps. Le Saint-Crème qui nous fortifie dans la confirmation, c'est la même chose. Le pain et le vin qui, transubstanciés, deviennent notre nourriture spirituelle dans la Sainte Eucharistie. Puis les saintes huiles qui, dans le sacrement des malades, effacent les restes de nos fautes. Et dont l'un des buts est d'ailleurs de rendre aux malades la santé du corps, si c'est possible. Dans le sacrement de l'ordre des prêtres, ce sont des mains de chair du prêtre que l'évêque recouvre d'huile pour les rendre puissantes. Et ce qui constituera le centre même du sacrement de mariage, ce sont les corps de deux êtres, savez-vous ça? Ce sont les corps du fiancé et de la fiancée, du futur marié et de la future mariée, ce sont ces deux corps qui, par un oui réciproque, soudent jusqu'à la mort leur existence. Et ça assure la propagation de l'espèce humaine, ça fait naître des enfants, si Dieu leur en donne et s'il n'empêche pas la famille, comme on dit, de façon artificielle, on peut l'empêcher en pratiquant les méthodes rythmiques, etc., qui sont beaucoup plus sûres qu'on pense. D'ailleurs, les méthodes artificielles, particulièrement le condom, ne fonctionnent pas toujours. On le sait. Hein? Et ça suscite bien des avortements. Quelle horreur! Notre corps est la matière d'un sacrement dans le mariage. Et ainsi donc, dès notre naissance, l'Église ne quitte pas notre corps. Elle répand en nous la grâce en touchant notre corps. Et tout cela se fait avec des gestes humains, avec des paroles humaines, qui ont souvent un rôle dans la validité du sacrement, un rôle très important, un rôle même essentiel. Et il y a les fêtes liturgiques, hein, au lieu de nous égarer dans toutes sortes de considérations abstraites, mais l'Église s'applique à fêter. Elle se renouvelle chaque année, dans l'année liturgique, qui va commencer à la fin du mois, là. C'est notre nouvel an à nous autres bientôt. Comme les Juifs ont eu leur nouvel an il y a quelques jours, quelques semaines. Bien, notre piété, elle est renouvelée, comme ça. On commémore des faits concrets de la vie de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints. Le corps, bien souvent, prend dans ces fêtes une place importante. Quand on fête l'Immaculée Conception, comme on va le faire le 8 décembre, qui est l'engendrement d'un enfant sans péché, eh bien, il y a l'oraison qui dit au Dieu qui, par l'Immaculée Conception de la Vierge, avait préparé à votre fils une demeure, un corps, si vous voulez, digne de lui. Cette demeure, et c'est un corps, uni à une âme immaculée qui se marie. Pour l'Annonciation, le 25 mars, bon, je vous prépare une émission là qui va faire crier peut-être certaines personnes. Mais l'Annonciation qui rappelle aussi un enfantement. C'est l'enfantement. Hein? Une Vierge enfantera, dit l'Antienne. La purification de la Vierge aussi. Comme votre Fils unique, revêtu de notre chair, c'est bien dit, revêtu de notre chair, il y a un corps, a été en ce jour présenté au temple, à Noël, bien évidemment. Puis à la Passion, à Pâques, à l'Ascension, c'est toujours la souffrance. La naissance, la souffrance, la résurrection, c'est toujours l'exaltation d'un être de chair qui a un corps. Et que dire d'une fête comme celle du corps du Christ, la fête Dieu? C'est pour honorer le corps du Christ, l'hostie. Que dire de la fête du Sacré-Cœur? Pour vénérer le cœur de chair de Sauveur, ce qui est symbole de son amour. Puis des hymnes de l'Église qu'on chantait il n'y a pas si longtemps, je parle au plus vieux de mon âge, qu'on chantait depuis des siècles, Pange Lingua. Le Verbe fait chair, change par sa parole un pain véritable en sa propre chair. Puis il y avait l'Ave Verum aussi, salut vrai corps, né de la Vierge Marie. Nous sommes probablement trop habitués de toutes ces formules et toutes ces oraisons, puis toutes ces antiennes et tous ces cantiques, pour saisir tout ce qu'elles contiennent, tout ce que ça contient de respect, de tendresse à l'égard du corps humain. Et même la messe des morts, la façon dont on enterre nos morts, hein. On peut dire qu'il s'agit, dans tout ce qui précède évidemment du corps de notre Seigneur, ou de notre corps en tant qu'uni à l'âme, mais d'accord, mais même notre corps sans âme, dans la liturgie des défunts, corps inanimé, l'âme a quitté sa demeure terrestre. Mais l'Église veille auprès du corps, elle demande qu'il soit exposé dignement d'abord. Oui, c'est bon qu'il soit exposé, qu'on se rassemble pour prier, qu'on se rassemble pour contempler, et regardez, une dernière fois, celui ou celle qu'on a beaucoup aimé. Elle fait joindre les mains dans une attitude de prière aussi. Le défunt semble recueilli, comme s'il priait. Et tout concentré sur le crucifix ou le chapelet que ses doigts tiennent. C'est très beau, ces coutumes. Aujourd'hui, on incinère les corps avant de les exposer, avant les funérailles. C'est abominable. Je suis contre, moi, personnellement. Je sais bien que l'Église n'est pas contre, mais moi, je le suis. Et s'il s'agit d'un prêtre qui est décédé, c'est magnifique. Elle le fait revêtir de ses ornements sacerdotaux dans l'attitude du célébrant qui va monter à l'autel de Dieu, puis elle le transporte dans l'Église, le cercueil ouvert. C'est superbe. Et ce corps inerte, le clergé va venir l'asperger d'eau bénite à l'entrée, puis le conduire à l'avant. Nos corps sont comme ça, comme ceux des prêtres. Puis la messe, qui est l'action pure par excellence, qui va être célébrée en présence de ce corps. Oui, pour ce corps qui retournera à la poussière. Eh bien, le prêtre l'encense comme une chose digne de respect. Puis au sortir de l'Église, la dépouille mortelle ne sera pas abandonnée. Hein. Le prêtre, souvent, s'il a le temps, non, de moins en moins le temps, ils sont plus 9 prêtres dans une paroisse, il est tout seul, puis il y a 2-3 paroisses. Alors le prêtre, parfois, réussit à l'accompagner jusqu'au lieu de sa sépulture, surtout dans nos campagnes où la sépulture est tout près de l'Église. Il bénira la terre avant de lui confier les restes du chrétien, car aux yeux de notre chère Église, le corps du baptisé a reçu puis garde une sanctification, je dirais en philosophiquement, intrinsèque. Nous sommes des saints, c'est dans les Écritures, hein, et rien de profane ne peut toucher ce corps sans défense, même si aujourd'hui elle accepte la crémation. Ce que les païens appelaient «
poutré au lit le pourrissoir. Eh bien, l'Église appelle ça le cimeterium, c'est-à-dire le cimetière. C'est un mot qui signifie dortoir. Ici repose. On voit ça sur les tombes parfois. Ici repose. Elle affirme par là sa foi en la résurrection des corps, à la fin des temps. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de téléologiens croient à la résurrection très près après la mort. C'est pas la matière du corps, c'est le corps ressuscité qui nous est donné. Ce n'est pas comme la résurrection du Christ, c'est une résurrection particulière. De toute façon, nos corps sont voués à la poussière. Avant que n'interviennent les lois civiles sur la sépulture, l'Église, elle aimait bien grouper ses enfants dans les cimetières, tout près de ses clochers, tout près de la Sainte Eucharistie surtout, parce que l'Église est une mère qui entoure ainsi la mort dont nous avons peur. L'Église, qui est une vraie mère, entoure la mort d'une atmosphère de paix, de prière, d'espérance. Et on pense pourtant que l'Église se désintéresse du corps humain. Voyons, quelle doctrine humaine a donc jamais poussé aussi loin le respect du corps? Y pensons-nous assez, et le savons-nous? Parfois, j'ai l'impression que tout ça a été oublié. Et c'est tragique. Puis il y a aussi le respect des statues. Voilà un autre argument, il me semble, qui peut peut-être vous surprendre, pour montrer comment l'Église exalte la sensibilité humaine. Mais en ce qui concerne notre sujet, il est aussi, il me semble, ça, le respect des statues, c'est une nouvelle preuve que le corps de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des Saints est respectable, puis digne de vénération, puisque l'Église se sert de leur représentation pour inspirer, puis nourrir notre piété. Puis il y a aussi les images, les icônes. En rejetant, il y a plus de 1000 ans, le culte des images, là, les iconoclastes, est-ce qu'ils ont défendu l'œuvre de Dieu puis la valeur humaine? Il me semble que non. Hein? Puis, peut-être que ça va vous faire rire, il y a les reliques. Hein? Oui, c'est sérieux malgré bien des excès. L'Église respecte-t-elle nos corps? C'est l'émission d'aujourd'hui, je viens de vous dire qu'elle respecte même dans les reliques. J'ai ici dans ma main une très précieuse relique de Sainte Marguerite Bourgeois qu'une religieuse de la Congrégation Notre-Dame a eu la bonté, la gentillesse de me donner. C'est ce que j'ai de plus précieux. Je l'embrasse souvent. En demandant à Sainte Marguerite Bourgeois qu'elle voulut nous enseigner au tout début de Ville-Marie les choses les plus précieuses, eh bien, je lui demande de m'aider dans mon travail. Et ça m'incite à la penser à elle, à penser à sa sainteté. Vous savez que l'Église entoure d'un culte spécial tous les restes mortels des saints, qui sont ses meilleurs enfants. Elle regarde même comme digne de respect, comme des reliques, les objets les plus ordinaires qui leur ont appartenu, quand ils sont entrés en contact plus ou moins immédiat avec leur corps, oui, avec leur corps. Et ces reliques, elle les encense, elle bénit même les fidèles avec ces reliques-là. Souvent, quand on voit des grandes églises magnifiques dans nos pays, elles n'ont été construites à la base que pour servir au fond de vastes reliquaires. Oui, lieu de rassemblement évidemment pour nos célébrations, mais c'est comme des grands reliquaires. Parce que ces grandes églises abritent la tombe, souvent, on le voit en Europe, des grands martyrs célèbres. La plus petite église de village, de toute façon, doit avoir des reliques du martyr, ou d'un martyr, dans l'autel. Puis leur translation constitue la partie centrale, suivant, de la consécration d'une église. Et chaque autel doit contenir des reliques, saviez-vous ça? Et que la signification de cet usage est magnifique, hein, l'autel, en effet, c'est la figure du Christ. C'est pour ça qu'il faut toujours s'incliner devant le maître-autel, qui est là, qui est la rencontre de Dieu notre Père avec nous dans la personne du Christ qui surgira des mains du prêtre. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose l'œuvre de la rédemption, cet autel, le Christ. En faisant encastrer des reliques dans la pierre d'autel, bien, l'Église veut indiquer, par n'importe quoi, elle veut indiquer que le corps des martyrs fait partie du corps mystique du Christ. Et puis, elle veut sceller l'alliance, cette espèce de mariage, du sacrifice eucharistique avec celui des martyrs, qui sont allés jusqu'au bout et qui ont donné leur vie pour ceux qu'ils aiment. qui ont versé leur sang par amour. C'est en présence de ces témoins du Christ, c'est sur leur corps que la Sainte Messe sera célébrée. Eux qui ont aimé, vraiment, au point de donner leur vie, comme je vous dis. Et ces quelques considérations, me semble, est-ce que ça vous suffit pas à montrer que le respect du corps est immense au sein de l'Église catholique? Elle prouve ces choses-là, là, ces considérations. Elle prouve une fois de plus que l'Église est restée humaine sous l'empire de la grâce qui la rend souvent très mystique. Et d'instinct, elle respecte et elle exalte ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. L'Église part donc de ce principe que Dieu seul est le maître de la vie. C'est Dieu seul qui crée l'âme et unit l'âme au corps. Dieu seul a le droit de séparer ce qu'il a uni. L'homme ne peut porter atteinte à ce droit divin. L'euthanasie est une terrible chose. On doit donc respecter la vie du corps. Et celle d'autrui? Celle d'autrui? Si on ne veut pas respecter la sienne, respectons au moins celle des autres. C'est pour ça que l'Église protège avec une vigilance inlassable la vie humaine. Elle lutte de toutes ses forces contre même les méthodes artificielles pour empêcher la conception des enfants. Et ça, c'est passé de mode, on n'en parle plus, on pense que Paul VI s'est trompé. Dans un monde qui cherche toutes les occasions pour prendre le plaisir de l'acte sexuel tout en écartant les conséquences, l'Église rappelle que les satisfactions intimes et légitimes et sanctifiées par le mariage qui accompagne la procréation, que ça ne peut pas être cherché de manière à empêcher par des méthodes artificielles la conception qui pourrait s'en suivre. Il y a d'autres méthodes naturelles. Rechercher la jouissance et écarter volontairement ce pourquoi la jouissance d'ailleurs est accordée par Dieu, c'est commettre une faute. Mais qui pense encore que l'Église a raison? Qui? J'entendais à la télévision il y a 20 ans, German Greer, papesse du mouvement féministe, qui disait que la pire chose qui était arrivée à la femme, c'était la pilule et le stérilet. Cette femme qui avait combattu, cette femme incroyante qui avait combattu, comme Simone de Beauvoir, pour la prétendue libération de la femme, regrettait tout ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait dit, parce qu'elle disait que la femme était devenue l'esclave de l'homme. Elle était devenue l'esclave de sa propre ambition et de sa propre déraison dans bien des cas. Et que jamais, pourtant, la femme aurait pu trouver autrement la libération qu'en vraiment en aimant un homme chrétien profondément dans un mariage vraiment d'amour. Mais évidemment, comme elle disait, c'est presque devenu impossible. Elle ne rêvait pas, German Greer, elle ne faisait que regretter une situation. Et l'intérieur lui disait qu'elle parlait comme le pape Paul VI. Elle était un peu étonnée, elle faisait l'étonner en tous les cas. Donc, de sa conception, l'enfant a droit à la vie, qu'il a reçue de Dieu. J'en parlerai le 25 mars à l'occasion de l'incarnation de Jésus 9 mois avant sa naissance. Alors, appelé à l'existence par un acte libre des parents, un enfant ne peut être considéré comme un agresseur. C'est ce qu'on pense aujourd'hui souvent. Un agresseur dont on se débarrasse. Il me semble que toutes les manœuvres destinées à le faire disparaître, ça constitue un meurtre, et c'est ce que l'Église pense, c'est ce que pensent bien des athées aussi, c'est ce que pensent évidemment beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on l'imagine, la majorité des musulmans, des juifs, etc. Il y a une foi née, même s'il est malade, s'il est disgracié, on n'a pas le droit de le supprimer. Est-ce que M. Latimer a eu raison? Non, malheureusement non, malgré toute la pitié qu'on peut avoir pour ce pauvre homme. Autrement, nous devrions supprimer nos enfants handicapés et nos grands handicapés. Les graves? Mais qu'est-ce qu'un handicapé grave? Qui va décider? Toute concession dans ce domaine laisse la porte ouverte à une foule de prétextes invraisemblables et ça devient l'horreur nazie. Et l'individu ne peut pas abuser de ses forces. Il doit respecter son corps. L'Église nous invite à respecter notre hygiène, à faire de nous des gens normaux. Et il y a une association, l'ACAT, dont le président, le directeur et le curé de Notre-Dame-des-Neiges, l'abbé Villemur, qui défend les mutilés, ceux qui sont torturés, hein, L'Église défend les corps qui souffrent. Et combien d'hôpitaux ont été fondés par l'Église? Les cliniques, les asiles, les maternités. L'Église enseigne finalement que nous, on doit respecter l'intégrité du corps, respecter nos malades. Dans les cas graves, elle accepte même de lutter contre la peine de mort. Elle va très loin dans ce sens, aujourd'hui. Me semble, nous n'avons pas le droit de tuer nos vieillards, nos malades. Nous devons aimer tous les êtres humains qui sont des créatures de Dieu. La perfection chrétienne n'est pas un problème de mutilation, d'anéantissement, de destruction. C'est un problème de hiérarchie et de dosage qui consiste à développer harmonieusement pour la gloire de Dieu puis le bien d'autrui les talents que Dieu nous a confiés. Ce que l'Église condamne dans les théories modernes qui exaltent le corps, ce n'est pas le soin apporté au corps humain, mais l'oubli, voire la négation d'une hiérarchie des valeurs qui fait que l'on méprise les corps qui ne sont pas beaux et bien faits. Quelle horreur! Demandons à Dieu de respecter nos corps, lui qui les habite.